L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses affichées la plus belle.
Passé de 3 minutes, ça marche presque, à la pendule la plus rebelle des radios. Il est l'heure du Canu Info du jeudi, comme tous les jeudis, quasiment de la semaine avec les... De la semaine, il y en a qu'un.
Ça va être dur ce soir, ouais. On vous prévient.
Voilà, donc,
et on n'a pas commencé à boire encore.
Non, donc comme tous les jeudis de l'année presque. Avec Delphine que vous avez entendu.
Ouais, bonsoir à tous et à toutes. On espère que vous allez bien. Et donc il y a Laurent, micro vert à la technique. Et oui, puisque Jean-Yves n'est pas revenu cette semaine, tu as décidé de maintenir ta position et ta place dans cette émission.
Attends, il essaie de me mettre au chômage, tel le libéral qu'il est peut-être. Je me suis battu et j'ai conservé ma place, mon salaire et tout ce qui va avec et tous les avantages sociaux énormes.
En tout cas, on le salue.
Dû à la présence à Canu.
C'est toujours très agréable de faire cette émission comme ça. Ça change aussi un petit peu, j'imagine, pour vous, auditeurs et auditrices qui nous écoutez. J'imagine bien toutes les semaines.
Voilà, hein. Puis merci de m'avoir remplacé, puisque moi j'étais malheureusement indisponible. Donc, nous allons commencer par parler un petit peu de ces odeurs nauséabondes qui traînent en politique. Alors, vous me direz, on a un peu l'habitude que la politique, ça ne sente pas très très bon. Mais en quelques jours, moi j'ai eu l'impression que chacun et chacune impliquée dans la politique cherchait à battre des records de médiocrité. Le premier exemple qui me vient, il y en a 50 d'exemples, j'en ai pris que 3, je vous rassure. Premier exemple qui me vient en tête, c'est celui de Perrine Goulet, que je ne connaissais pas, que je ne voulais pas connaître et que je n'avais pas envie de connaître, une élue de La République En Marche, qui avait demandé donc en commission parlementaire, dans un truc très officiel, s'il était possible de tirer sur les personnes qui s'introduisaient dans les centrales nucléaires, évoquant bien sûr les actions de Greenpeace. Donc en gros, elle disait, quand ils essayent de rentrer dans les centrales, est-ce qu'on ne pourrait pas leur tirer dessus? Ah, bon, c'était pas terrible. Alors, on rappelle que cette dame a travaillé chez EDF. C'est pas une scientifique, hein. Cette dame a travaillé chez EDF, dans une centrale nucléaire. Je crois qu'elle était au service de la propagande. Ça, je sais pas, ça a sûrement un autre nom, le service de la propagande chez EDF. Mais voilà. C'est une aficionados invétérée du nucléaire. Elle le défend sans aucune rationalité, hein. Elle n'est pas issue du monde rationnel, mais elle aurait le droit de l'être quand même. Et là, on la découvrait avec des envies de meurtre contre les militants de Greenpeace. Alors, bien évidemment, donc il y a une plainte qui a été déposée par Greenpeace. Au final, elle s'est excusée. Ah bah non, elle s'est pas excusée. Bah, c'était trop compliqué. On va pas s'excuser quand on est de La République En Marche. Non, elle a juste dit qu'elle voulait dire qu'il fallait leur tirer dans les jambes. Alors rendre les gens handicapés, puisque c'est quand même ce qui arrive régulièrement quand on tire des balles dans les jambes, c'est peut-être pas beaucoup mieux. En tout cas, voilà, quand on lui pose une question sur la sécurité des centrales nucléaires, qui, comme le prouve Greenpeace à chaque fois, est pas assurée, elle répond par il faut leur tirer dessus. C'est quand même pas le top du top de la réponse. Alors, deuxième exemple. Ben, ça s'est passé hier, alors on n'y était pas, c'était à la manifestation parisienne en mémoire de Mireille Kroll. Vous savez, cette vieille dame assassinée parce qu'elle était faible et qu'en plus elle était juive, hein, puisque ce motif est retenu par la justice, ça semble s'orienter vers de l'antisémitisme. Donc, lors de cette marche blanche, en mémoire de cette vieille dame assassinée assez sauvagement, il faut quand même le dire. Donc, Jean-Luc Mélenchon et les représentants de la France Insoumise ont été pris à partie par une quelques manifestants. Ces manifestants sont arrivés à les expulser de la marche. Avant de quitter les lieux par une rue adjacente, il a eu une réponse pour une fois assez intelligente. Il a dit « Le sujet de la manifestation, ce n'est pas moi, c'est cette femme assassinée par des violents et des barbares et la nécessité de montrer que toute la communauté nationale serre les rangs. Le reste, c'est vraiment un épiphénomène. » Il parlait aux médias, il est parti comme ça. Finalement, il ne s'est pas mis en avant et il a été plutôt intelligent, M. Mélenchon, contrairement aux nervis de l'extrême droite qui l'ont expulsé, puisque c'est de ça dont il est question, puisque depuis, les individus ont été repérés. Ceux qui les ont expulsés sont connus, en tout cas celui qui était à côté d'eux et qui leur disait « allez-y, virez-le », c'était quelqu'un qu'on a déjà vu un petit peu traîner. Il a dit, alors j'ai la phrase, parce qu'il y a une vidéo qui, on le voit vraiment agir, une sorte de, un peu le chef hein, de ces gens qui ont expulsé la France insoumise. Il a dit, c'est une ordure ce mec-là, c'est une honte pour la France, faut le dégager. Qui a dit ça? Il s'appelle Eliaou. Alors c'est un alias, il est plus connu sous le vrai nom de Jean-Claude Nataf, porte-parole et chef de la branche politique de la Ligue de Défense Juive, une organisation d'extrême droite sioniste bien connue en France, qui est interdite aux États-Unis et même en Israël, et qui est soutenue, entre autres, par le Conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF, qui lui-même avait demandé à ce que Mélenchon ne vienne pas à la manif, et qui s'est donc qui a apporté son soutien a posteriori à ces militants d'extrême droite juive qui ont expulsé Mélenchon de la manif. Alors c'est vrai que le Jean-Claude Nataf, hein, qui est le leader, qui est donc le gars là, une sorte de chef de la Ligue de défense juive, est très proche hein, de Francis Khalifa, qui est l'actuel président donc du CRIF, qui vient du Bétard, qui est un précédent groupe d'extrême droite juive qui est très présente en France, hein, qu'on a vu, qu'on croisait à Lyon, hein, qui tabassait les militants, qui faisait des distributions de tracts ou des soirées pro-palestiniennes. Donc c'est des gens qui sont vraiment très violents, très agressifs, très haineux, très racistes. Dans une marche antiraciste, c'est quand même assez incroyable qu'ils aient pu s'exprimer et qu'ils soient soutenus par le CRIF notamment, qui a été condamné par tout le monde hein, pour le coup. Donc voilà, et alors ensuite il s'est passé un truc, c'est que Marine Le Pen, qui elle non plus n'était pas invitée par le CRIF, hein, ça se comprend, le lien du parti de la fille Le Pen avec l'antisémitisme est très très fort, notamment avec son père et avec les gens qui entouraient son père. Elle se positionne très différemment, elle condamne l'antisémitisme islamiste. Elle condamne, du coup, elle rajoute le mot à côté. Elle condamne pas l'antisémitisme tout court, mais l'antisémitisme islamique. Elle est dans sa lutte contre les méchants arabes, hein, c'est de ça dont il est question. Puisque pour elle, tous les arabes sont musulmans, si ça aussi, un beau mélange, hein, que l'extrême droite porte, qui est d'ailleurs arrivé à percer à l'extrême gauche, hein, pour le coup. On a malheureusement les mêmes approximations aujourd'hui qui traînent un peu partout. Et elle était un petit peu chahutée par d'autres militants qui trouvaient qu'elle n'avait pas sa place là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les gens de la Ligue de défense juive sont allés vers elle et l'ont protégée. Il s'est passé l'inverse, en fait. Incroyable. Donc la Ligue de défense juive, groupe d'extrême droite juive, est plutôt pro Le Pen. Alors Le Pen, elle essaye hein, de récupérer la voix des juifs aujourd'hui dans sa campagne, tout en restant d'extrême droite, mais en disant non, les méchants, c'est que les arabes, maintenant c'est plus les juifs. Le discours de l'extrême droite, il évolue. Hein. On rappelle qu'au début du 20e, l'extrême droite, elle était contre les Polonais, contre les Italiens, contre les Espagnols. C'était eux, le racisme, c'est eux qui le vivaient. Ensuite, ça a été l'antisémitisme qui est devenu très très fort. Ensuite, les maghrébins, et aujourd'hui elle se veut le porte-parole juste du racisme anti-maghrébin, et le reste elle essaye de récupérer le vote de ces gens-là. Voilà. Alors ça c'était la deuxième vomisserie d'hier, et puis dans la lignée aux immondes et aux immondices qui peuvent traîner chez les militants ou chez les politiques, on a cette phrase relativement horrible qui dit, je cite: ben quoi, ça vous choque un assassin qui se fait tuer par un terroriste? Pas moi. J'ai zéro compassion pour lui. Il y a quand même une justice. Donc quelqu'un. Alors elle parle de. C'est une personne qui s'appelle Myriam. Elle parle de qui? Elle est contente. Donc le terroriste, c'est bien évidemment le dernier en date, hein, celui qui en a tué, qui a tué quatre personnes. Alors, elle c'est contre un des salariés du Super U qui a été tué par le terroriste. Et malheureusement, ce salarié, il était boucher. Et elle est végane. Et pour elle, un boucher, c'est un assassin. Donc un assassin mérite la peine de mort. Donc elle est contente qu'il y ait eu une justice, c'est-à-dire qu'il y a eu un terroriste religieux pour aller assassiner cet assassin. Voilà, donc c'est incroyable. Alors, contrairement à ce qui est dit, elle ne soutient pas le terrorisme islamique, hein, c'est pas une propagande pro-terroriste qu'elle dit, pas du tout. Elle est juste contente que quelqu'un ait eu le courage de faire ce qu'elle n'a pas eu le courage de faire. Alors, en gros, c'est ce qu'elle dit. Alors, bien évidemment, tous les véganes ne sont pas comme ça. Un journaliste de VG Mag a écrit une lettre bien tournée pour désapprouver les propos de cette Myriam, en rappelant que bah, lui, il voulait pas tuer les animaux, mais pas tuer les êtres non plus, parce que alors, je sais pas s'il est antispéciste, mais vraisemblablement pour lui c'est un peu pareil les animaux et les êtres humains, du coup il faut pas les tuer. Voilà, ce qui est normalement le credo plutôt des véganes.
Ce qui nous a paru tout à fait logique.
Tout à fait.
Enfin voilà, on vous le
alors,
dit.
Si vous connaissez le milieu végan, c'est assez courant non plus ces dérives là. En ce moment, c'est des rives d'avoir envie d'aller plus loin que la justice, de condamner. Elles sont très présentes. On l'a revu avec quand Bertrand Cantat a essayé de tenter de faire un retour. On a eu des commentaires de militantes et de militants féministes dire non, il a plus le droit de travailler, il faut qu'il fasse autre chose. Donc on rappelle que la double peine, elle n'existe pas.
C'est pas la même chose. Il y a des femmes qui ont dit qu'il ne devait pas se mettre en avant parce qu'il y a des tas de gens qui disent qu'il a le droit de travailler.
Ouais, mais son métier, c'est chanteur.
Eh ben oui, c'est toute la difficulté. Hein.
Oui, non, mais alors. Voilà. Et il y en a qui sont allés jusqu'à dire qu'il faut qu'il disparaisse, laissant entendre qu'il fallait qu'il meure. Donc c'est pareil, on ne va pas appliquer la peine de mort ni la double peine. Je vous rappelle que quand un condamné en justice est bouché, on ne lui demande pas d'arrêter d'être bouché, pourtant il est visible dans son magasin, etc. Donc voilà, il y a quand même l'envie d'aller plus loin, de condamner et de remettre en avant la vengeance. C'est l'idée de vengeance. Lui, il a fait ça, et ben maintenant on se venge. Or non, la justice c'est tout sauf la vengeance. On rappelle, on condamne, on rééduque s'il le faut, parce que la rééducation est souvent plus importante que la condamnation, qui est une forme de punition, et on fait progresser les gens, et si les gens ne peuvent pas progresser, on les empêche de nuire de différentes manières. Vraisemblablement, on n'est pas dans cette idée-là, l'autoritarisme est plus du tout une idée portée et émancipatrice par les mouvements d'extrême-gauche en ce moment, hein. Il faut quand même le dire. On est vraiment dans des réactions très très violentes et on a ces réactions violentes qui entraînent ces propos ô combien déplacés. Bien évidemment, l'attaque, la réponse du gouvernement est aussi déplacée en voulant la poursuivre pour apologie du terrorisme, ce que ce n'est pas. Hein, ils peuvent la poursuivre pour une vraie raison, hein, mais pas l'apologie du terrorisme, parce que dans ces propos-là, elle ne fait pas du tout cette apologie-là. Bon, bref, tout ça est bien médiocre quand même en quelques jours. Il y a quand même une bonne nouvelle, et je vais la donner, c'est que Nicolas Sarkozy est renvoyé en correctionnel. Donc, il avait été en comparution, convoqué, tout ça, par la police, mais là, il est renvoyé en correctionnel pour corruption et trafic d'influence à la Cour de cassation. Donc, c'est une très bonne nouvelle. On espère qu'un jour, lui, il ira en prison, même si on n'a pas envie que beaucoup de gens aillent en prison. Lui, ça nous ferait quand même peut-être un peu plaisir. Alors, ça, c'était le petit édito qui a été long. On va parler de plein d'autres choses dans ce Canu Info. En dehors des odeurs nauséabondes de la politique, il y a des choses super sympas du côté de la Corée, sud et nord, du côté de l'Égypte. Et puis on va faire ça c'est le début, puis après on fera une grosse rubrique sur le rationalisme un petit peu, parce qu'on en a marre des croyants, des sectes, des irrationnels, des gourous et de toutes ces choses-là. Commençons d'abord par une espèce d'idole du Canu Info, Kim Jong-un.
Et alors, juste avant, parce que j'ai quand même été vérifié, parce que parfois, vous savez, mon français peut m'échapper, je suis pas très bon en français tous les jours, j'ai donc bien vérifié, vomisserie, ça n'existe pas.
Oui, non, mais c'est une blague.
Je tiens à rassurer nos auditeurs et nos auditrices.
Et alors, comme dit, je sais plus qui c'est qui disait, mais le français c'est une matière vivante et
oui, il faut. Bah là, tu l'as fait vivre.
Il faut inventer les mots pour faire évoluer le français. Oui. Moi, je suis d'accord avec ça. Rabelais et plein d'autres auteurs ont été très performants là-dessus. Il y a que les intégristes de l'Académie française qui empêchent l'évolution de la langue. Donc je redis, c'était une vomisserie. C'est un lieu où on vomit en fait, une vomisserie. Bon, bref. Non, la politique, c'est un lieu où on vomit.
Ah, je l'avais pas perçu comme ça. Donc comme quoi, tu vois, quand le mot existe. Pas, on peut le comprendre de bien des façons.
Non mais un lieu où on vomit.
Un débat, mince.
Est-ce qu'il y a un mot qui décrit un lieu où on vomit? Non, ça n'existe pas, parce que vous me direz le lieu où on vomit, c'est pas censé exister. Bah si, la politique. Voilà, j'ai gagné. Allez, bref. Le mot n'existait pas.
Donc notre héros du jour, Kim Jong-un. Parce que vous avez bien entendu, un train est arrivé en Chine. Et la grande question de la semaine, au début, c'était de savoir, est-ce que ce train a une autorité nord-coréenne à l'intérieur. Il faut se souvenir que il y a eu dans la dynastie des Kim un Kim Jong-il qui aimait voyager en train. Bon, déjà parce qu'il aimait pas l'avion a priori, mais aussi peut-être parce qu'il avait peur que l'avion il tombe à cause d'une attaque. Il était pas bête, hein. Je veux dire, il y avait quand même un peu les Américains aux fesses aussi. Alors Kim Jong-un, il est donc arrivé en train pour de vrai. En Chine, à Pékin, il a été accueilli par le président et guillemets, des guillemets de la Chine.
Oui, qui est tout sauf un président.
Hein, voilà. Ah ben, d'où les guillemets. En tout cas, il est venu bien accompagné. Il est resté du dimanche au mercredi, hein, donc jusqu'à hier. C'est ce qu'a annoncé l'agence de presse Chine Nouvelle. En toute indépendance, bien évidemment, comme agence de presse. Xi Jinping a donc accueilli Kim Jong-un pour un avant-sommet, puisque je vous rappelle que était annoncé un sommet entre Monsieur Trump et Monsieur Kim. Mais la Corée du Nord avait pas vraiment confirmé officiellement. Il y avait beaucoup d'attentes quand même sur toute cette rencontre. Et puis, ben ça y est, c'est fait. Normalement, ça devrait avoir lieu. La Corée du Sud a confirmé. On sait pas bien quand. Hein. Là, sur le printemps, ça devrait venir. On sait pas bien où non plus. On sait pas bien dans quelles conditions. Rendez-vous compte un petit peu de ces services secrets de sécurité qui vont se mettre en place pour que deux pays ennemis qui s'affrontent verbalement, qui veulent se faire la guerre, surtout avec Monsieur Trump et Monsieur Kim. Qu'est-ce que ça va donner?
Oui, il faut empêcher qu'un des deux saute sur l'autre et l'assassine, quoi. En fait.
Et puis, il faut éviter aussi qu'il y ait une tierce partie qui vienne mettre le bazar dans toute cette rencontre et qui ferait que mettre les choses un petit peu par terre. L'idée, là, c'était que la Chine, Kim Jong-un n'était encore jamais allé en Chine. Hein. C'est son premier voyage à l'étranger. Donc, il est allé rencontrer l'autorité chinoise avec qui il y avait quelques problèmes ces derniers temps. Vous avez raconté que la Chine s'était un petit peu quand même rangée derrière la Corée du Sud, le Japon et les États-Unis d'Amérique pour critiquer les essais nucléaires de la Corée du Nord. Donc, il y avait quand même besoin de cette rencontre un petit peu prioritaire quand même avant M. Trump pour voir un petit peu ce qui allait se passer. Alors, le train, je vous en parlais tout à l'heure. Ce qui est très marrant, c'est qu'on a entendu tout et n'importe quoi dans la presse et les médias français. On nous a beaucoup parlé de ce train vert avec une bande sur le côté qui arrivait. Juste pour expliquer quand même que les vieux trains en Chine, ils sont verts. Donc déjà, cette bêtise-là, on se rend compte qu'il y en avait... Bah, ils ont même pas été cherchés de quelle couleur étaient les trains chinois. Je vous parle pas des TGV, hein, je vous parle vraiment des vieux. Donc c'était bizarre. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que ce train nord-coréen est à un nombre de wagons absolument hallucinant et qu'on sait qu'a priori, il est renforcé et sécurisé à certains endroits, qu'il y a... C'est tout un immeuble, hein, si vous voulez, à l'horizontale et sur les rails qui peut circuler comme ça jusqu'à la Chine. Donc là, maintenant, on attend, avant la rencontre avec les États-Unis d'Amérique, on attend à ce que la Corée du Nord rencontre la Corée du Sud. Ça devrait aussi avoir lieu la prochainement sur le printemps, on sait pas bien quand, on sait pas non plus comment, mais ça semble quand même aller vers le mieux puisque la Corée du Nord semble s'engager sur un arrêt de l'utilisation du nucléaire. Donc c'est plutôt une bonne chose, hein, on va dire pour l'humanité. Ça peut être que une bonne chose, et en particulier pour ceux qui sont autour et celles qui sont autour, c'est-à-dire les Chinois, les Coréens et les Japonais qui sont directement visés par la Corée du Nord. Bon, on espère que d'ici là monsieur Trump va aussi fermer sa bouche. Qu'il a quand même assez grande et assez désagréable, il faut dire, et que ça ne mette pas le bazar. Voilà, donc c'était bien vrai cette affaire, il y avait donc bien un Kim dans le train. Vert avec une bande sur le côté. Donc, maintenant je vous emmène de l'autre côté de la DMZ, en Corée du Sud.
Ah.
Et juste pour une anecdote, un petit peu comme ça, parce que pour vous expliquer que dans le monde, il y a quand même des gens qui ont été présidents et présidentes et qui ont des soucis avec la justice.
Il n'y a pas que Sarkozy.
Non. Sauf qu'en Corée du Sud, ça va un peu plus vite, puisqu'on a destitué Madame Park. L'ancienne présidente, je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est Monsieur Moon qui est depuis mai dernier, hein, mai 2017 à la tête du pays. Et ben on a un nouveau ancien président qui va se retrouver, enfin qui se retrouve déjà face à la justice. Il s'agit de Lee Myung-bak, c'est le président qui était là avant Madame Park. Et donc il est visé par un mandat d'arrêt. Il a déjà rencontré les procureurs, hein, sur place. Il est visé pour des affaires de corruption. Eh oui, comme Madame Park. Il faut savoir que la Corée du Sud a connu la dictature et puis est vérolée par une corruption de ses dirigeants qui sont très très proches de ces fameux chaebol, ces conglomérats sud-coréens qui qui ont fait le pays économiquement, hein, il faut le dire. Et donc, l'un des premiers qui vous vient ici en tête, c'est Samsung, parce que c'est celui que nous, on connaît, parce que le produit...
Il y en a d'autres, il y a Hyundai... Enfin,
mais c'est vrai que beaucoup de gens ont un Samsung dans les mains, ou une télé, enfin, ils sont présents partout, Samsung, ils sont même dans les autres téléphones, des autres marques. C'est pour vous dire à quel point vous avez du Samsung de partout. Et alors, cet ancien président, M. Lee, aurait reçu des sous de Samsung pour éviter que Samsung soit visé par des problématiques judiciaires suite à des petits problèmes fiscaux. Hein, parce que chez Boll, évidemment, ça ne paye pas toujours correctement ses impôts. Et donc, il aurait reçu 6 milliards de won. Calmez-vous, je vous l'explique à chaque fois, le won ne veut rien. Mais ça fait quand même 4,5 millions. D'euros.
Oui, ça vaut pas rien, mais
bon. Ça fait quand même pas mal. Ah, mais moi, tu me donnes 4,5 millions si tu veux. Ouf. Je le partage aisément. Voilà, c'était juste pour vous raconter ça. C'est quand même une affaire assez intéressante. Alors, moi, je vous renvoie vers un film qui s'appelle Vétéran de Ryu Sung Swan, qui est sorti en 2015. C'est l'histoire de CEO de Sheol, qui est un policier, qui va se retrouver à tenter d'attraper un jeune fils de millionnaire, milliardaire. Un fils de chez Boll, l'entreprise porte un autre nom. Ce jeune fait ce qu'il veut, échappe à la justice parce qu'il a justement des copains et des copines bien placés à la tête de l'État et de la police un peu de partout, et puis qu'il y a de la corruption aussi qui se met en place. Et ça rappelle un petit peu ce qui se passe aussi avec les fils, essentiellement parce que la Corée du Sud reste un pays malheureusement très sexiste, mais ça rappelle un peu ce qui se passe aussi avec le fils de Samsung qui a voulu faire un petit peu ce qu'il voulait aussi avec cette entreprise et qui aujourd'hui se retrouve mêlé à tout un tas de problématiques judiciaires suite à des affaires de corruption. Donc voilà, ça s'appelle Vétéran et ça date de 2015. C'est un film avec une ambiance assez Ocean Eleven, vous voyez. Ce que c'est faire de mieux la Corée du Sud des fois dans ses films, c'est pomper le cinéma hollywoodien, mais avec une belle sauce à la coréenne. Et ça donne un film plutôt très très sympathique avec une très très chouette musique dessus. Voilà.
On va aller en Égypte. C'est un poil plus près que la Corée du Sud, puisque j'ai une bonne nouvelle à annoncer. Hein. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a gagné l'élection présidentielle à plus de 90% des voix. Moi, je dis bravo, un score, comme on dirait, à la soviétique, hein, ou à l'égyptienne, hein, parce que finalement, ils ont une belle tradition de tricherie électorale aussi.
Mieux que M. Poutine, quand même.
Et oui, alors là, M. Poutine est
écrasé.
Carrément enterré, ou alors lui, il est plus intelligent, il fait plus son semblant de démocratie est un peu plus crédible, et encore, ce qui se passe en Égypte. Alors ça, c'est les premières estimations qui ont été publiées aujourd'hui. C'est la presse d'État qui a donné ça. Alors le gros enjeu, c'était pas ça, hein, puisque de toute façon, il se présentait tout seul, quasiment. C'était le taux de participation, l'enjeu. Donc on est aux alentours de entre 40 et 50%, le chiffre n'est pas officiel encore. D'autres quotidiens donnent 92% pour lui, 23 millions de personnes ayant participé au vote sur les 60 millions d'électeurs. Donc voilà, on est effectivement entre 40 et 42%, on va dire comme ça, en comptant de tête. Donc voilà, les chiffres sont pas encore officiels, ils seront publiés lundi prochain, le 2 avril, mais on va tomber sur un score comme ça, ridiculement élevé. Donc les Égyptiens qui ont accepté de participer à cette mascarade ont voté entre lundi et mercredi. Le but, c'est de donner au dictateur en chef un mandat de 4 ans supplémentaire pour continuer de massacrer à tour de bras les opposants, les homos et tout ce qui ne lui plaît pas du tout. Alors j'ai dit qu'il n'y avait pas d'autres candidats. Si, en fait, il y en avait un. Parce que il était coincé. Il y a eu des candidats. Il les a éliminés, M. Sissi. Alors, soit il les a obligés, soit il a mis la pression pour qu'ils arrêtent, soit obligés, il les a mis en prison. Donc il s'est débarrassé de tous ses candidats. Et puis il était tout seul à se présenter. Donc ça allait pas. On peut pas se présenter à une émission, à une élection en disant « Ouais, c'est de la démocratie, tout ça, machin. » Et donc il allait voir un de ses potes, Moussa Mostafa Moussa, qui est archi fan de Sissi, qui dit que du bien de Sissi, et qui lui a dit « Bah, tu te présentes en face de moi. » Ce mec, il s'est présenté en faisant dans ses discours la propagande de l'autre candidat. C'est assez incroyable quand même de voir ça et de laisser passer ça, mais voilà. Donc il avait effectivement pas de candidat en face de lui. Et on savait déjà dès la fermeture des bureaux de vote mercredi dernier, hier, que après les premiers dépouillements qui étaient réalisés en direct avec notamment la presse présente, qu'il y avait une victoire vraiment écrasante de plus de 90% de monsieur du dictateur en chef sortant, de monsieur Sissi, et que la participation serait donnée aux alentours de 40%. La dernière élection qui a eu lieu en 2014, ils sont arrivés en rajoutant une journée pour que les gens aillent voter, à 47,5% de participation. C'était le seul élection démocratique que l'Égypte récente ait connue, celle qui avait porté le précédent, j'ai perdu son nom, issu des Frères musulmans qui était au pouvoir. Et lui, de toute façon, il s'est fait gicler par son copain Sissi, qui n'était pas son copain, mais il le croyait. Enfin, bon, bref, je ne vais pas refaire toute l'histoire de récente de l'Égypte. Alors, comme ils ne sont pas contents de la participation, il y a notamment le porte-parole de la conférence Mahmoud El Sherif, ça doit être le porte-parole du gouvernement, qui a dit qu'ils allaient appliquer la loi. La loi oblige à aller voter. Et si vous n'allez pas voter, vous avez une amende de 500 livres égyptiennes. Donc il a dit qu'il fallait une excuse. Alors, s'il y a des Égyptiens qui nous écoutent, on ne sait jamais. L'excuse, c'est pas, je ne vais pas voter parce qu'il n'y a personne qui me représente. Hein, ça, c'était vrai. Il n'était pas représenté, peut-être, parce que ça marche pas comme excuse. Hein. Il faut avoir un vrai truc, c'est-à-dire être en train de mourir ou des choses comme ça. Sinon, vous n'avez pas d'excuse et vous allez payer l'amende. Voilà. Bon, l'Égypte est dans un état autoritaire depuis pas mal de temps, ce qui ne refroidit pas la France et pas du tout Emmanuel Macron, qui est allé faire une visite il n'y a pas bien longtemps et qui continue de vendre des armes. Malgré un embargo officiel de l'Union Européenne, comme quoi l'Union Européenne, ça bloque pas tant de ça que les choses. Elle dit qu'on ne doit pas vendre d'armes, et pourtant, on a vu sur certaines images des blindés des véhicules Sherpa vendus par Renault tirer sur des manifestants, ou les écraser, en 2013 notamment. Voilà. Si on regarde les chiffres et qu'on va plus loin, 14 milliards d'euros d'exportation militaire française en Égypte en 2016. 2 milliards d'euros pour des armes de petit calibre, 4,5 milliards d'euros pour des bombes, des torpilles, des roquettes, des missiles, etc., etc. 5 milliards pour du matériel électronique. J'en passe et des meilleurs. Alors bien sûr, si on suit les données de CIPRI, c'est le Stockholm International Peace Research Institute. Donc c'est un institut qui travaille sur la paix et qui est à Stockholm. La France est devenue, cocorico, le premier fournisseur d'armes en Égypte. C'est pas mal quand même. Donc quand des gens se font tuer, c'est grâce à la France en Égypte. C'est pas mal. Je pense que M. Macron, M. Hollande pour le président d'avant, Sarkozy encore avant, tout le monde est content de participer à la mort de ces souvent innocents, faut quand même le dire. Donc premier client de la France aussi dans l'autre sens, l'Égypte c'est le grand ami de Macron et du gouvernement. Alors il y a des grosses multinationales qui participent, Dassault avec ses fameux Rafales, le Naval Group, c'est l'ancienne DCNS avec ses Mistral, Renault Trucks Défense avec ses blindés, Thales et Airbus avec des satellites de télécommunications militaires, Safran et son drone avec l'Égypte. Et il y a des petites PME aussi qui interviennent. On a Manurin qui a vendu des machines pour fabriquer des armes. Voilà, il y a pas mal d'entreprises comme ça qu'on n'attendait pas et qui participent aux actions meurtrières en fait en Égypte. Alors les actions meurtrières en Égypte, c'est notamment en ce moment dans le Sinaï, puisqu'il y a une grosse bataille contre, alors ça s'appelle une vaste opération antiterroriste dans les termes officiels, mais personne ne sait ce qui se passe, c'est-à-dire que tous les journalistes sont interdits, on sait que la situation humanitaire est exécrable, que a priori l'armée assassine à tour de bras, mais on n'a que les retours du peu de rescapés qui arrivent à sortir de cette zone, puisque aucun journaliste n'est accepté. Alors, vous me direz, est-ce que des armes françaises sont utilisées dans ces violations ? Vu le nombre qu'on vend, il y a quand même de grandes chances. Il y a même eu des images de la communication officielle sur cette fameuse opération Sinaï 2018, où on aperçoit des véhicules de Renault Trucks. Donc voilà, effectivement, les armes françaises tuent des Égyptiens. On le savait déjà, mais là, on a des preuves de plus en plus récentes. Voilà, on rappelle aussi, et c'est ce que dit Amnesty International et aussi la Fédération internationale des droits de l'homme, c'est qu'il n'y a pas que les vendeurs d'armes directes, il y a aussi les vendeurs de nouvelles technologies. Il y a par exemple Nexa Technologies. Avant, ils étaient connus sous le nom de Amesis. Ils avaient vendu à Kadhafi des moyens de surveiller sa population. Et ben eux, ils continuent de vendre des systèmes de surveillance pour surveiller la population égyptienne, ce qui entraîne l'arrestation des opposants qui se retrouvent en prison, torturés, voire pire, bien évidemment. Et dans les opposants, on notera aussi ceux qui plaisent pas au gouvernement. Par exemple, les homosexuels subissent une chasse assez incroyable en Égypte grâce au système, notamment, de surveillance des entreprises françaises. Et ça, c'est tout à fait officiel. Tout le monde le sait. Hein, c'est, voilà, c'est dans la presse. Et donc, le gouvernement Macron le sait. Quand il y va, il est content de serrer des mains et de vendre des trucs qui vont tuer, arrêter, qui vont faire arrêter, puis peut-être torturer et peut-être mourir des opposants ou des homosexuels. Et il y a une vraie complaisance de la France là-dessus qui est à dénoncer, bien évidemment, mais ça ne servira sûrement à rien. Voilà, on pourra en parler des heures et des heures. C'est juste assez incroyable ce que peut faire un État membre de l'Union européenne dans un pays aussi régressif en ce moment et agressif que l'est l'Égypte.
Alors, il est 19h31 à la pendule de la plus rebelle des radios. Nous allons ouvrir une page rationaliste ce soir. Je voudrais juste commencer par rappeler que pour avoir un esprit scientifique, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études scientifiques. Je vous rappelle, dans cette émission, c'est Laurent, c'est toi qui es le scientifique.
Par contre, ça aide vachement, si tu veux.
Par contre, moi qui n'ai pas du tout eu de
Ah, tu es une littéraire.
Je suis, ouais, de ce côté-là, plutôt. Pas que, d'ailleurs. Vous aurez remarqué
t'as progressé un peu.
Mais j'ai tenté quand même de comprendre la science, comment elle fonctionne, et d'essayer d'avoir un esprit scientifique. Et je pense que toute ma vie, je vais avoir à progresser parce que justement, je pars de bas.
L'esprit rationnel n'est pas lié à... La science est forcément rationaliste, sinon c'est pas de la science. Par contre, l'esprit rationnel, on l'a quand on construit une argumentation, quand on fait de la philo. Donc, du coup, c'est pas réservé aux scientifiques, le rationalisme.
Voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait 10 ans de maths pour avoir un esprit scientifique et pour ensuite... être des rationalistes. Comme... Donc, nous allons commencer cette partie avec une affaire concernant les compléments alimentaires. Je vous rappelle, un complément alimentaire, ça peut être une vitamine. La vitamine C, c'est un complément alimentaire. Ça peut être le fameux magnésium qui a été beaucoup prescrit et vendu. Ça peut être des trucs pour la peau, les ongles, les cheveux, un machin pour les régimes. Tout ça, une gélule, un liquide, tout ça, ce sont un spray, tout ça, ce sont des compléments alimentaires. Ce ne sont pas des médicaments. Et le Syndicat national des compléments alimentaires, le SYNADIET, a publié hier un sondage expliquant ou tentant à expliquer pourquoi ça marche si fort. Parce que les consommateurs et consommatrices dans notre beau pays consomment. Mais alors, qu'est-ce qu'ils consomment? Des compléments alimentaires. Oh là là, c'est assez impressionnant. Et d'ailleurs, on va dire elles, parce que ce sont beaucoup, beaucoup, les femmes qui consomment ces produits censés nous faire du bien. Alors, il y a pour beaucoup, il n'y a pas d'effet scientifique.
Ces produits sont vendus sans qu'aucune efficacité n'ait jamais été.
Alors, il y en a une partie, si, parce qu'on sait que telle vitamine va pouvoir aider une femme enceinte, par exemple. Ou si jamais, effectivement, tu manques de quelque chose. Mais ça, c'est des analyses qui vont t'amener à dire, des analyses en général de sang, qui vont amener à dire que tu as un manque de quelque chose.
Oui, c'est pas une prise en disant, tiens, voilà. Je me sens faible, je vais prendre du magnésium.
Le syndicat, le SYNADIET, a donc fait un sondage, c'est OpinionWay qui l'a fait, donc je vous laisse la valeur de la chose, auprès de 1000 personnes, pour savoir pourquoi ça marchait si fort, et essayer d'en tirer un petit peu des conséquences. Je suis allée sur le site donc de SYNADIET, vous me connaissez maintenant certainement, et j'aime bien aller gratouiller sur ces sites d'entreprise ou de syndicats. Donc le SYNADIET rassemble, je les cite aujourd'hui, plus de 90% des professionnels du secteur des compléments alimentaires en France, 230 adhérents sur toute la chaîne, il faut le savoir. Et SYNADIET formule des propositions et met en place des actions concrètes pour une évolution responsable de son secteur d'activité. Responsable, le mot est lancé. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, il y a donc eu une conférence de presse hier, avec un beau dossier de 13 pages que vous pouvez lire, et on apprend donc qu'il y a un chiffre d'affaires en 2007. Je ne sais pas si tu peux imaginer, Laurent, le chiffre d'affaires, il est à 1 milliard ouais. 800 millions oui. d'euros. Mais une progression de 5,8% par rapport à 2016. Non, c'est énorme, c'est, énorme, c'est, énorme, énorme.
Ça se voit, quand on va même dans des lieux où on est censé acheter des médicaments, où malheureusement il n'y a pas que des médicaments, les pharmacies, il y a plein de compléments alimentaires aussi dans les pharmacies. Et il y a une espèce de propagande faite par les pharmaciens qui ont une formation scientifique, mais qui ne l'appliquent pas tout le temps, et qui vendent ces trucs parce qu'ils font du business avant tout. Ils sont, et effectivement, ils sont présents de partout, ces compléments alimentaires, et il y a une mode, parce qu'il y a eu des affaires qui condamnent, le, voilà, on a vu le lévothyrox ou des choses comme ça, où on se dit, ah mais la vraie médecine, ça, ou les vrais médicaments, c'est pas si terrible, ça peut être dangereux, etc. Il y a des alternatives, et ce qui est des alternatives, c'est bien. Alors les alternatives au nucléaire, elles sont bien. Les alternatives à la médecine, bah, ça marche beaucoup moins bien quand même.
Alors ce qui est intéressant, c'est que Synadiète nous propose donc un dossier sur OpinionWay, donc avec les résultats de cette enquête, et puis une petite synthèse. Et dans le chapitre 1 de cette synthèse, on lit « Les autorités françaises veulent passer d'un modèle de santé curatif à un modèle favorisant davantage de préventif, et le budget serré de la sécurité sociale encourage les actions individuelles visant à prendre soin de sa santé. » Et c'est bien parce qu'aujourd'hui, l'État, les gouvernements successifs se désengagent de notre santé en déremboursant des médicaments, en prenant moins en charge notre santé, que les gens se tournent vers ces compléments alimentaires. Et alors, tu parlais donc des pharmacies. Les pharmacies représentent 51% du business, du chiffre d'affaires. Ben voilà, donc le
j'avais pas lu l'info, mais ça, voilà.
Voilà, ça se sentait. Quoi. Et alors, on pourrait penser que les parapharmacies, qui se sont beaucoup développées en ville, en particulier, représentent un gros chiffre d'affaires. Ben, c'est pas tant ça, finalement. Il reste toujours les circuits spécialisés, les magasins bio, diététiques, qui ont toujours été là hein, depuis très très longtemps, et qui ont toujours vendu ces compléments alimentaires, en particulier les vitamines. Et puis, on trouve évidemment la grande surface, qui évidemment fait un beau chiffre d'affaires. Et après, selon les endroits de vente, hein, entre la pharmacie, la parapharmacie et les grandes surfaces, les GMS, comme on dit chez les spécialistes, eh ben, vous n'avez pas tout à fait les mêmes ventes de produits. Ce qui arrive évidemment dans les pharmacies en tête, c'est tout ce qui va être le sommeil, le stress et l'humeur, hein, d'une manière générale. On trouve ça beaucoup hein, dans les petites armoires à pharmacie des familles. Et ce qui va arriver plutôt dans les parapharmacies et les grandes surfaces, c'est tout ce qui est lié au régime. C'est-à-dire qu'on va finalement plus s'auto-médicamenter pour soi-disant perdre du poids avec des compléments alimentaires qui a priori n'ont aucune efficacité, ça se saurait sinon, je pense que ça serait quand même donné à beaucoup. Faut arrêter de penser qu'il y a un complot de la part des médecins qui veulent nous empêcher d'être minces, beaux et séduisants et tout ça, hein. Non c'est pas vrai, il n'y a pas de complot de la part des médecins généralistes, ils font très bien leur travail, ils nous donnent des produits qui sont censés marcher. Maintenant, je dis ça, c'est pas tout à fait vrai non plus, puisque dans le sondage, il y a une question qui est posée, d'où vient le conseil et par qui il a été délivré, et on apprend que ben c'est souvent un pharmacien, ouais. un médecin, des gens... un kiné, donc c'est-à-dire des professionnels de santé.
Ouais. Mais on a la même problématique.
Tout simplement.
Il y a eu plusieurs articles qui sont sortis ces dernières semaines sur l'homéopathie, qui est considérée comme un complément alimentaire dans certains pays, puisque c'est jamais un médicament. Des médecins qui disent qu'il faut arrêter qu'il y ait des médecins homéopathes, puisque c'est incompatible, et qu'il faut arrêter de vendre l'homéopathie dans les pharmacies, puisque ce n'est pas un médicament. Et effectivement, on est dans le même ordre de grandeur de mélange des genres, des médecins qui, soi-disant, ont une culture scientifique et rationaliste et qui vendent des choses qui sont basées sur la croyance. On rappelle que c'est l'homéopathie ou les compléments alimentaires, puisqu'il n'y a pas de démonstration scientifique, c'est basé sur la croyance qu'on a dans le produit. C'est un petit peu dommage que la croyance soit un élément intervenant dans la médecine.
Ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est qu'évidemment il y a des professionnels de santé qui vont vendre ces médicaments, qui peuvent parfois vous être donnés par un médecin, parce qu'un placebo est un truc absolument exceptionnel. Et même quand vous savez que ça ne marche pas, parce que vous savez que l'homéopathie ça ne marche pas, même en sachant que le produit ne marche pas, l'effet placebo peut quand même avoir être là, donc c'est un truc exceptionnel. Le cerveau peut imaginer plein de choses, et ça peut parfois vous faire aller mieux dans le confort. Ça va pas vous soigner un cancer, il faut pas délirer, mais ça peut avoir des effets sur certaines pathologies. Donc parfois vos médecins peuvent vous prescrire quelque chose en espérant qu'il y ait l'effet placebo. Donc il ne faut pas toujours taper sur les médecins quand ils font ça. Ce qui est plus inquiétant, c'est qu'il y a 62% de ces gens interrogés dans ce sondage qui n'ont eu aucun conseil de qui que ce soit. C'est-à-dire qu'ils achètent. Soit certainement parce qu'ils ont lu peut-être...
Un article.
Alors ça encore, c'est 3% dans les médias, 4% sur les réseaux sociaux, 6% sur les membres de la famille. Mais il y en a 62% qui y vont tout seul ou toute seule.
Bah, ils lisent la boîte.
Et voilà. Et bien le problème, c'est que je te rappelle que sur la boîte, on ne peut pas alléguer d'un résultat sur un complément. Santé. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plein de boîtes où vous n'avez rien. Vous ne savez même pas à quoi ça sert. Vous savez même pas l'effet que ça peut avoir. Vous connaissez pas les. Parfois, on vous dit un petit dosage, mais finalement, les gens ont tendance à se dire, bah, que si c'est vendu comme ça librement, c'est que ça pourrait être pas bien grave. Donc, bah, des fois, sur les vitamines, on en prend beaucoup trop, et là, ça peut être dangereux.
Contrairement à l'homéopathie, où vous pouvez prendre le nombre de comprimés que vous voulez, même 5 milliards en une journée, à part faire une surdose d'eau sucrée, vous irez pas plus loin que ça. Hein.
Alors, je vous disais, c'est beaucoup les femmes qui sont accrochées et consommatrices de ces produits. Ce qui est intéressant aussi, c'est que beaucoup de gens qui ont un diplôme supérieur au bac vont acheter ces produits. Bah oui, mais c'est aussi parce que des gens qui ont du pognon à dépenser, ça coûte très cher ces compléments alimentaires souvent, et qui vont donc se soucier de leur santé, de leur bien-être, de leur apparence, et qui vont donc aller acheter tout un tas de produits pour ne plus avoir, je sais pas moi, de cellulite par exemple, pour drainer leur corps, pour éliminer les toxiques. Ah ça, les fameuses toxiques qui sont méchantes dans notre petit corps. Donc on a ce truc-là. Donc c'est un marché très très dynamique, qui est en plus présent partout, dans toutes les pharmacies, les grandes surfaces, en magasins spécialités, donc ça existe de partout. Vous avez de partout ces produits, ça touche vraiment tous les sujets, c'est pour mieux digérer, mieux dormir, mincir et tout. C'est pas prêt de s'arrêter cette affaire, parce que les gens continuent à penser que ça marche. Et d'ailleurs, dans ce sondage, on s'aperçoit que les gens sont absolument persuadés que ça marche. Et d'ailleurs, les gens, vous savez, ont cette auto-observation et de dire « Mais si, regardez, ça marche vraiment. J'ai le cheveu plus soyeux, par exemple. » Des choses comme ça. Oui, je vous entends rire chez vous. J'ai pas le cheveu plus soyeux, j'ai pas essayé. Mais c'est-à-dire que c'est aussi comme ça, c'est que on raconte à l'autre « Ah mais si, prends ça, ça va être super. » Sauf que les gens ne se méfient pas non plus de tous ces produits. Et puis, ce qui est très marrant, c'est de voir aussi des compléments alimentaires qui sont basés à base, qui sont sur des plantes. Et ces plantes sont même pas bio. Donc, c'est-à-dire qu'en plus, on se fait même pas du bien, on utilise des produits qui sont tout pourris. Donc ça c'était une première partie que j'avais envie de discuter avec vous. Vous pourrez trouver toutes ces informations sur le site de Synadiète, vous allez voir, c'est très chouette comme d'habitude, dès qu'on touche à l'entreprise, on a toujours des sites internet qui sont magnifiques. Vous pouvez y retrouver ce sondage expliqué en long, en large, et c'est surtout que ça vous permet de comprendre qu'en fait le Synadiète fait aussi des sondages pour expliquer à nos politiques qu'il faut rembourser ces produits, puisque dans le sondage, il y a une question, est-ce que vous pensez que ces produits doivent être remboursés? Évidemment, les gens disent oui quand ils consomment. Ils sont pas bêtes, les gens. Ils vident leur portefeuille. Écoutez, ils espèrent bien qu'on va le remplir et que donc ça soit remboursé. Il y a une bataille. Aujourd'hui, il y a un article qui est sorti dans le Figaro la semaine dernière. Malheureusement, c'était un article abonné, donc il n'était pas lisible en entier, où tout un tas de professionnels de santé, de scientifiques se battent justement contre ces charlatans qui vous vendent des produits qui ne servent à rien et qui vous vendent en particulier de l'homéopathie, et tout ça devrait être absolument différent de la médecine.
Ouais, et mais je pense que la réaction du syndicat, c'est face à cette mobilisation de scientifiques et de médecins, parce qu'il y a eu l'article du Figaro de la semaine dernière, effectivement, et il y a eu encore des articles aujourd'hui dans la presse d'autres médecins qui demandent qu'on arrête de prescrire l'homéopathie. Et finalement, il faudrait qu'on tende vers le système américain, c'est vendu en tant que complément alimentaire et qu'on arrête de dire que ce soit.
En fait, les médecins demandent à suivre. Quand vous êtes homéopathe, vous êtes homéopathe, mais pas médecin.
Voilà.
Et ce qui est très intéressant, c'est que je vais vous raconter une expérience. J'ai vu dans un cabinet médical un petit mot expliquant que le médecin qui faisait des séances d'homéopathie se réservait le droit de faire un supplément financier parce que c'était des séances spécifiques. Et on se dit, demander plus de pognon à un patient qui vient vous voir pour vous fourguer du sucre et de l'eau, franchement.
Oui, mais il est plus à l'écoute.
Voilà. Écoute. On va enchaîner très rapidement, parce qu'il est déjà 42, si on veut ensuite parler religion, pour parler du rapport 2016-2017 de la mission interministérielle de vigilance, et de lutte contre les dérives sectaires, la MIVILUD, qui a donc remis son rapport la semaine dernière, c'était jeudi dernier. Alors, j'ai pris un peu du temps, parce qu'il y a 182 pages, quand même. C'est en plusieurs parties, et la première partie concerne l'arrivée des nouvelles dérives sectaire. Alors je vous rappelle qu'entre l'escroquerie et la dérive sectaire, il y a un gros trou, il y a un fossé, mais que il y a des phénomènes qui avant étaient de l'escroquerie, en particulier dans la santé, et sont devenus aujourd'hui des dérives sectaires. Alors il y a la MIVILUD travaille à partir de signalements et d'interrogations qui lui sont transmis. 2580 nouveaux signalements et interrogations ont été relevés en 2017, c'est un chiffre qui est en hausse par rapport à l'année 2016. Il n'y a pas de nouvelle émergence réellement, simplement il y a des questions qui sont plus importantes et qui arrivent plus d'une manière vraiment plus d'actualité, on va dire. Alors, en termes de de la religion, on a toujours la scientologie, des mouvances catholiques intégristes, du protestantisme évangélique et pentecôtiste qui sont signalés auprès de la Miviludes. On a toujours les témoins de Jéhovah.
Et ce qui est marrant, c'est que, la Miviludes, ça fait des années que ça existe, pas si longtemps que ça, mais ça fait quand même quelques années. Ils font des rapports et on a toujours ces sectes, les témoins de Jéhovah, tout ça qui sont présents, et rien n'est jamais fait au niveau de l'État. Les témoins de Jéhovah, ils sont à tous les coins de rue, quoi.
Alors sur les témoins de Jéhovah, c'est vrai que la Miviludes est un petit peu distante avec ce groupe religieux, en expliquant que ce n'est pas forcément le groupe au départ qu'il est, ce sont certaines pratiques qui amènent à l'enfermement des membres des témoins de Jéhovah, et certaines pratiques en particulier sur la santé, et qui font qu'aujourd'hui il y a des mises en danger de certains des membres.
Parce qu'ils n'ont pas le droit aux transfusions sanguines. On a quand même l'église de Scientologie qui a Pignon-sur-Rue à Lyon, et si c'est une secte, pourquoi a-t-elle Pignon-sur-Rue, hein? C'est là une grande question.
Alors il y a aussi tout un mouvement autour du New Age, alors ça c'est pas nouveau, hein, et des médiums. Ça par contre, ça s'est beaucoup redéveloppé, en particulier sur Internet. Il y a donc des gens qui vous proposent des séances et des vidéos sur Internet et qui ont mis un paiement en ligne, hein, parce que c'est facile maintenant. Mmh. Avec votre numéro de CB, vous pouvez donc avoir des séances très faciles de médiumnité. Alors moi j'ai appris tout plein de mots grâce à la Miviludes, parce que c'est
sûr que ça existe, c'est pas comme moi, ils ont pas inventé un mot.
Non, c'est bien vrai. Pour la Miviludes, la difficulté, c'est qu'avant, effectivement, on pouvait pointer les témoins de Jéhovah ou la scientologie. La différence aujourd'hui, c'est qu'il y a tout plein de petites structures sectaires qui sont beaucoup plus difficiles à suivre pour les autorités, pour la justice, et même pour la police, hein, faut le dire jusque-là. Donc, il y a des signalements qui sont moins importants auprès du djihadisme, par exemple, ça aussi, ça a baissé. Mais il y a un gros chantier pour la Miviludes autour du complotisme. Ça, ça a créé des sectes et des mouvements assez importants, il faut le dire, parce que c'est plus juste maintenant un débat politique. Si je peux l'annoncer comme ça, ça rentre dans une dérive sectaire, le complotisme, et ça amène des gens à un enfermement.
Oui, parce que
il y a des tas de pratiques qui sont plus normales.
Il y a un enfermement, on n'arrive pas à en sortir, soit par un enfermement physique, soit psychique, soit psychologique. Enfin voilà, il y a quand même des contraintes qui font que on n'imaginait pas au départ les gens qui croient que les reptiliens dirigent la Terre, qu'ils sont dangereux pour l'humanité, ils sont juste débiles. Non, ils arrivent effectivement à embrigader des gens, à les enfermer, et on a la mise en place de sectes qui sont basées sur ces dérives complotistes. En fait, ils sont plutôt des gens qui se servent de dérives complotistes pour monter des sectes et avoir un bout de pouvoir.
Alors tout à l'heure, je parlais des compléments alimentaires. C'est vrai qu'aujourd'hui, on trouve des dérives sectaires beaucoup dans des pratiques alternatives de santé. Je cite le rapport. Il y a beaucoup de signalements dans ces pratiques-là auprès de la Miviludes. Alors le rapport pointe, excusez-moi, deux méthodes de soins alternatives. Et donc sectaire, le Reiki, qui est une technique japonaise de guérison, je mets des guillemets, et en italique, avec l'imposition des mains.
Voilà. Un peu le magnétisme, tu sais, quand tu touches quelqu'un, ça y est, les gars.
Et puis la kinésiologie, là, donc c'est psychocorporel, c'est inspiré de la médecine chinoise. Ça, c'est un développement très très fort. Il y a ce que la Miviludes appelle les salons biozen, qui sont en train de se développer, avec les groupes aussi jeunes et randonnées, contrairement à vieux, mais jeûne, arrête de manger.
On aime bien jeûner, randonner.
Voilà, on aime beaucoup. Alors, aller jeûner une journée et marcher, ça va rien vous faire. Et surtout, si vous le faites avec des potes.
Ouais, enfin, là, il faut prendre des produits avant.
Sauf qu'il y a des dérives sectaires qui se sont mises en place sur ces pratiques. Et donc, moi, j'ai appris qu'il y avait beaucoup de dérives sectaires autour du respirianisme. Je t'en ai parlé. Il me semble, je ne savais pas ce qu'était le respirianisme. Oui, j'avoue, j'ai des trous dans ma culture.
Sur les sectes.
Ce sont donc des groupes et des personnes qui expliquent que l'être humain peut se nourrir d'air et de lumière. Et donc, il y a des gourous là-dessus qui expliquent que ça fait 10 ans qu'ils ne vivent.
Qu'ils mangent plus.
Voilà, qu'ils mangent plus, qu'ils ne vivent que grâce à la lumière et à l'air.
Au pudding.
Voilà, donc là, il y a des grosses dérives sectaires qui amènent quand même un danger. Il faut le dire, la physique, très clairement. Et puis, il y a les groupes sectaires, évidemment, dans lesquels la Miviludes rappelle que c'est très important, c'est tout ce qui touche aux mineurs, et en particulier aux violences sexuelles. Là, l'État doit faire quelque chose. Le rapport de la Miviludes, il est là pour pointer des dérives sectaires, mais aussi pour rappeler ses obligations au gouvernement en place et à l'État, et donc d'agir et de faire quelque chose sur des points très précis. 182 pages à lire cet été sur la plage, si vous voulez pas le faire tout de suite. Non mais je veux dire, c'est important de mettre son nez là-dedans. C'est long, mais c'est assez facile à lire et c'est assez instructif. Et ça se trouve sur le site, évidemment, de la Miviludes.
Alors, passer des dérives sectaires aux religions, c'est très facile, puisqu'ils sont souvent très très proches. On vous rappelle que de pouvoir quitter une religion, c'est un des fondements pour dire que c'est une religion et pas une secte. Ce qui avait obligé, d'ailleurs, il y a quelques années, l'Église catholique à autoriser les débaptisations, hein, parce qu'ils sont coincés, sinon ils sont considérés comme une secte. Donc voilà, c'est assez proche, les sectes et les religions. On dit toujours, hein, les religions sont des sectes qui ont réussi, c'est un peu quand même souvent le cas, hein, puisque les religions sont nées sous forme sectaire avant. Nous allons commencer par une chose, par quelque chose de drôle, parce qu'il faut commencer par des choses drôles avec les religions. Je vais vous parler d'une boutique de vente et de dégustation de crème glacée canadienne. Et il s'appelle Sweet Jesus, in English. D'où Jésus, du coup, hein, traduit en français. Alors, donc, ils ont monté cette chaîne en 2015. Ça marche plutôt pas mal. Des glaces un peu branchouilles, crème glacée très bonne, voilà, avec de bons ingrédients. Bon, ça marche dans les villes. Voilà, auprès des gens qui cherchent un peu de la qualité. Voilà, ce que j'ai cru comprendre. Le problème, c'est qu'ils viennent de s'installer aux États-Unis. Et les États-Unis, ils sont un peu coincés des fois.
Avec Jésus.
Avec Jésus, Marie-Joseph. La Trinité, là. Donc, effectivement, utiliser le nom, de Jésus comme crème glacée, putain, ça leur titille, ça leur a pas plu. Donc, une pétition a été lancée, il y a quelques milliers de signatures. La pétition demande des excuses. Ouais, il faut s'excuser. Et un changement de nom, bien évidemment. Et sinon, elle menace le boycott des magasins de la chaîne. La compagnie Suite Jésus s'en fout totalement, puisqu'elle ne vise pas du tout les croyants américains. Elle vise plutôt les milieux branchouilles, qui sont plutôt d'ailleurs des milieux loin de la religion. Soit des croyants intelligents, soit carrément la franche la plus athée de la population américaine. Voilà. Donc ils ont répondu quand même. Donc la compagnie a dit bah oui, on peut pas plaire à tout le monde. De toute façon, c'est voilà. Mais on voulait pas manquer de respect non plus. Hein. Le cofondateur Andrew Richmond, il dit bah non, mais en fait l'idée elle est venue tout simplement. On faisait des glaces et les gens, c'est une expression typiquement américaine. Et ils disaient oh, Sweet Jesus parce qu'elles étaient super bonnes. Donc ils se sont dit bah attends, on va les appeler comme ça. Les gens disent ça. C'est une expression pour qualifier comme dit, voilà, les choses de bon. Donc c'était pas lié à la religion en fait. Ils ont repris une expression courante. Ils se sont dit c'est coup marketing en fait le truc, c'est ça qu'il faut voir derrière, hein. Mais alors, comme ça énerve tout le monde, ils ont poussé le bouchon plus loin, et c'est là où c'est drôle, parce que ils ont un slogan qui dit bénissez votre bouche avec les glaces, parce que c'est très très bon, et alors ils vont encore plus loin, et c'est là où c'est énorme, c'est qu'en fait ils ont créé un logo sur leurs glaces, sur leurs verres, les mugs qui peuvent vendre, ou sur les glaces, ils écrivent Sweet Jesus, et le T de Sweet, c'est une croix, mais à l'envers. Donc, du coup, les chrétiens disent, oh, mais regardez, c'est du satanisme. Voilà. Et c'est, donc, ils vont jusqu'au bout de la provoque, finalement, cette chaîne de dégustation de glace, à cause de la réaction des chrétiens coincés. Du coup, ça les sert, finalement, puisqu'ils vont jusqu'au bout de la provoque, avec cette croix à l'envers, etc. Ça démontre juste qu'en fait, une partie de ces chrétiens nord-américains ont vraiment aucun humour, aucun second degré. D'ailleurs, on a assez peu de prénoms américains qui s'appellent, de gens qui s'appellent Jésus. Jésus, alors que ça se fait bien dans les pays en Espagne par exemple ou au Portugal. Je me demande s'ils disent la même chose quand ils voient un Portugais arriver qui s'appelle Jésus, ils disent ah non mais c'est un blasphème, t'as pas le droit d'utiliser le nom de Jésus. Voilà, je pense qu'ils ont un peu un manque d'ouverture ces gens-là. Mais bon, voilà, c'était un truc un peu drôle sur les glaces qui énervent les chrétiens.
C'est quand même une entreprise multinationale qui se sert de la religion pour faire du profit, quoi.
Bah, oui.
Bah, du moment que tu commences à changer de pays, pour moi, tu commences à devenir un peu une multinationale.
Ouais, Canada, États-Unis d'Amérique, hein, c'est quand même presque la même chose.
C'est insultant pour les Canadiens.
Ah bon, tu crois?
Je crois.
Alors, et voilà. Et on continue dans les régions et ça va être moins drôle. Donc, en juin 2017, dans l'état du nord-est du Jharkhand, ça se passe en Inde, Asghar Ansari circule dans son minivan avec de la viande dans son coffre. Il est pris à partie et pris en embuscade par une foule de gens qui ont l'air plutôt agressifs. Ceux-ci font partie des milices de défense de la vache, donc un groupe d'extrême droite religieuse hindouiste du pays. Et ils l'accusent donc de faire du commerce de bœuf, ce qui est pour eux, qui est illégal. Ils le battent en criant des slogans hindouistes, mettent le feu à son véhicule et le tuent. Hein. Enfin, il mourra des suites des blessures liées à des hémorragies internes déclenchées par ce groupe de militants d'extrême droite religieuse. Et ce qui est assez rare en Inde, ils ont été arrêtés et condamnés, puisque 11 de ces agresseurs viennent d'être condamnés à la prison à vie. Donc ils sont membres d'un groupe qui s'appelle le Bajrang Dal, donc qui est un groupe effectivement religieux extrémiste. Il y a aussi un responsable du BJP, le Parti Nationaliste Hindouiste, dont le Premier ministre, Modi, est membre et est au pouvoir. Lui aussi, ce responsable local, a été condamné. On se rappelle que Modi, il a incité hein, à aller tuer les musulmans avant d'être Premier ministre. Voilà, c'est une longue tradition dans le BJP, ce parti nationaliste hindou, de détester les autres. Alors là, c'est dans des régions où il y a des religions, donc c'est des musulmans, donc c'est contre les musulmans, mais d'autres endroits où il y a des bouddhistes, où il y a des chrétiens, c'est la même chose, en fait. Hein, ils sont pas racistes dans leur racisme, hein, en fait, ils sont contre tous les autres, en fait, toutes les autres religions. Mais c'est vraiment une bonne nouvelle pour l'Inde, qui jusqu'à maintenant était plutôt réticent à aller très vite dans la justice et surtout à condamner ces militants d'extrême droite hindouiste. Donc voilà, on rappelle quand même que, comme l'Égypte tout à l'heure, Emmanuel Macron est ami avec Modi, il est allé en Inde, il a été reçu, il a jamais rien dit hein, sur ces massacres de musulmans ou d'opposants par ces extrémistes religieux dont fait partie, on rappelle, le Premier ministre indien. Et puis on va terminer avec l'Irlande, pays très très catholique s'il en est. Hein, je pense que dans l'Europe, c'est un des pays où l'Église catholique a eu le plus d'impact. Avec peut-être quelques pays comme la Pologne, mais aujourd'hui c'est en train de changer. Tout ce que l'Église a pu inscrire dans les mœurs et dans la loi, hein, tout ce qui est lié souvent à des régressions, on va dire, d'absence de liberté, tout ça est en train petit à petit de changer en Irlande. La population rejette un petit peu toute la partie réactionnaire que l'Église catholique a pu insérer dans la vie des Irlandais. On parle de l'Irlande du Sud, bien évidemment, celle qui est libre, pas celle qui est occupée au nord par l'Angleterre. Alors pourquoi je vous dis ça? Bah parce que ils vont organiser le 25 mai prochain un référendum sur la libéralisation, c'est-à-dire l'autorisation de l'avortement. Ce qui est une révolution. Hein, parce que aujourd'hui, l'Irlande possède une des plus restrictives lois anti-avortement en Europe, en concurrence avec la Pologne, qui est la Pologne qui va plutôt dans l'autre sens. Donc voilà, l'organisation du référendum a été approuvée par les deux chambres du Parlement, qui ont voté une loi qui est valide, et le Sénat a adopté aussi le texte de loi à 40 voix contre 10. Ça veut dire qu'il y a une large majorité aujourd'hui des élus et tout le monde pense aussi de la population, pour enfin autoriser le droit à l'avortement. Donc ils vont modifier la Constitution, parce que c'est dans la Constitution que les cathos sont arrivés à faire écrire ce truc-là. Hein. Ils l'ont fait écrire récemment, hein, c'est dans les années 80, je crois, que les cathos ont fait pression pour faire écrire l'interdiction de l'avortement dans la Constitution. Donc là, c'est parti pour faire sauter ce 8e amendement. Une fois que ça sera fait, que le référendum sera voté, que ça va aller dans le bon sens, on l'espère quand même, hein, mais a priori c'est ce qui est donné, il faut modifier la Constitution, faire voter des lois, etc. Mais le Premier ministre s'est engagé à le faire. Alors c'est Leo Varadkar qui a été élu en juin de l'année dernière, qui avait promis de faire sauter cette loi. Faut dire une chose, c'est que ce Premier ministre, il est médecin. Et en tant que médecin, il a dit, moi je vois pas pourquoi dans la Constitution, il y a des sujets médicaux, moraux ou légaux comme ça qui imposent des choses. Et effectivement, c'est une bonne chose. Il faut savoir que l'avortement existe quand même en Irlande, mais que font les Irlandais, et les Irlandaises surtout, parce que c'est les Irlandaises qui sont concernées, elles vont dans le pays à côté, c'est-à-dire en Angleterre, hein, forcément. Donc il y a de l'avortement, mais il faut sortir du pays. Même le viol, l'inceste, tout ça, hein, on n'a pas droit à l'avortement en Irlande. Donc ça devrait passer. D'autres étapes qui arrivent, alors il faut savoir hein, qu'ils ont déjà légalisé le mariage homosexuel. siècle. Donc l'Irlande avait déjà fait beaucoup de progrès. Et devraient arriver deux autres référendums pour faire sauter la loi sur le blasphème, parce qu'en Irlande, on n'a pas le droit de dire « je ne suis pas croyant parce que je pense que Jésus n'existe pas » ou « que Dieu n'existe pas ». Si vous dites ça, vous êtes condamné pour blasphème. Ça, c'est pas possible. Ils veulent le faire sauter aussi. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Et puis peut-être faire sauter l'article 41.2.1 qui dit que la place de la femme est au foyer. Voilà. Donc il y a encore des choses qui traînent de ces influences catholiques. Ça devrait disparaître. Mais j'ai vu qu'on est presque à la fin là.
Ouais, je vais donc rentrer dans mon foyer bientôt.
Ouais, bah, oui. Voilà. Non mais t'es pas en Irlande, t'as le droit là.
Ah mince.
Vite, quelques petites annonces.
Très rapide.
Demain. Non, pas demain, samedi 31 mars, 10h30, métro Charpennes à Villeurbanne, rassemblement, puis ensuite tout le monde va aller à l'Amphizède, rassemblement donc contre la fin de la trêve hivernale et contre les expulsions et pour que tout le monde ait un logement. Et ensuite, rendez-vous à l'Amphizède pour aller pour un après-midi où il va se passer plein de choses à l'Amphizède, c'est pas très loin, c'est vers Cusset. Et donc le rassemblement est à 10h30, métro Charpennes. Samedi à la Griffe à 15h, rencontre débat autour d'un livre qui s'appelle Voyage en Outre-Gauche, c'est sur ce qui s'est passé en mai 68. J'avais autre chose, oui, samedi, toujours samedi, à partir de 15h, salle des Rancis, rue Vendôme, de 15h à 19h, on va parler de dérèglement climatique, de financiarisation de la nature et des choses comme ça, salle des Rancis, rue Vendôme. Et juste avant nous, il y avait Attaque, le festival Palestine en vue, année 2018, débute la semaine prochaine. C'est à partir de mardi dans toute l'agglomération lyonnaise.
Et je vous rappelle qu'il y a toujours le festival Hallucination Collective qui se déroule jusqu'à lundi au cinéma Le Comédia. Si vous ne savez pas de quoi je parle, et ben il faut réécouter l'émission de la semaine dernière. Et on va vous laisser ce soir avec l'émission La Petite Cuillère. Et ça va démarrer tout de suite parce qu'il est l'heure.
Voilà, rendez-vous la semaine prochaine.
Ciao, ciao.